David Forgeron, donc qui est du Carrefour Numérique, et Marcus, vous aviez sélectionné quelqu'un, oui? Eh bien, venez là. Donc l'idée, c'est 3 minutes. Une, deux questions, Maxi, parce que sinon on y est jusqu'à 19h et que moi ça me dérange pas d'être là jusqu'à 19h, mais il y a plein de gens qui ont des trains à prendre, ben voilà. Ouais, je veux bien que vous voulez... Ouais, oui, parce que j'ai tendance à dépasser un peu le temps, moi. Oui. Une annonce pour une veste noire, pas chère, 5 euros. Qui dit mieux? On verra par la suite.
Ah bon, vous voulez un deuxième micro?
Non, c'est bon, ça va aller.
Mais si, si tu veux compléter. Ou tu complètes déjà, tu veux ça. Ça y est. Bonjour. Donc, l'atelier Fab Lab, en 3 minutes. Ok. Donc déjà, c'était animé par Marcus et David Vigneron. Forgeron. ça commence bien. Et donc, en fait, à la base, Marcus nous avait proposé de jouer à un jeu qui s'appelle Créton Fab Lab, qui a été conçu dans un Fab Lab et qu'on peut récupérer aussi. Alors, il faut voir Marcus, mais je ne vois pas où il est. Il faut voir avec lui. Voilà, il est tout au fond, il se cache, ok. Et donc, en fait, c'était une bonne idée de départ de commencer avec ce jeu. Sauf qu'en fait, si, ça nous a permis de rebondir. En fait, on n'a pas du tout joué au jeu, on a discuté Fab Lab. Et donc, dans notre groupe, il y avait des bibliothèques départementales et des bibliothèques municipales avec certaines des projets en cours ou déjà en place. Donc, du coup, on a beaucoup échangé sur tous ces sujets avec, bien sûr, des focus sur les questions à se poser quand on voulait un Fab Lab, même quand on en avait un qu'il fallait réajuster un peu. Par exemple, quel type de structure porte le projet, les objectifs aussi du Fab Lab. Voilà, plein de questions.
Tout à fait. Et c'est vrai que le jeu nous a permis justement de commencer un petit peu à déblayer certaines questions, que ce soit aussi bien au niveau de l'outillage, au niveau des objectifs. Et ça nous a permis justement, au fur et à mesure, donc, de pouvoir tirer un petit peu le fil et surtout de voir un petit peu les expériences et les regards croisés des uns et des autres pour justement essayer de s'alimenter sur... Ces questions-là. Ce qui est un petit peu ressorti en point saillant, c'est d'une part effectivement la question du projet culturel dans lequel s'inscrit un Fab Lab, c'est hyper important, et notamment le contexte dans lequel ça s'inscrit. Parce que du coup, les bibliothèques en elles-mêmes sont implantées sur un territoire, et les dynamiques qui sont présentes sur ce territoire doivent être absolument prises en compte dans le projet du Fab Lab qu'on souhaite mettre en place. La question en fait de l'outillage des outils ne sont que des moyens pour réussir justement à obtenir, à atteindre ces objectifs. Ça, c'est important. Autre élément important, c'est le contexte.
Moi, j'avais parlé de la posture,
D'accord, 25 secondes.
Non, la posture aussi.
Alors, le contexte, c'est surtout en fait l'écosystème dans lequel justement on est déjà. Est-ce que vous travaillez déjà avec des associations, des partenaires ou autres? Mais effectivement, la question de la posture est importante.
Oui, non, voilà, la posture, c'était de favoriser quand même la facilitation par tous les publics, par tous les types de publics, de plutôt avoir une appétence pour les Fab Labs et la création, la fabrication. Et voilà, faciliter, je crois que c'était vraiment le... Et dire, savoir dire, je sais pas, mais on va chercher ensemble. Voilà, on va... Pour finir, juste, c'était un atelier hyper enrichissant. C'est dommage que vous n'ayez pas été là. Et le compte-rendu, la dame qui est avec nous, je suis désolée, j'ai oublié son nom. En fait, elle a tout noté. Et c'était vraiment très enrichissant pour ceux qui veulent se lancer ou pas. Et une heure et demie, c'était un peu court, en fait. Voilà. Et on avait deux chouettes animateurs de groupe.
Juste pour finir, merci à Marie, c'est Marie.
Marie, oui.
Marie pour la prise de notes, du coup, vous permettra justement, donc, qui est là-bas, qui nous fait coucou. Aussi, moi j'en profite pour remercier aussi tous les participants et surtout la diversité des approches, qu'elles soient effectivement aussi bien en termes de maturité de projet que aussi de Fab Lab qui étaient non seulement sur des bibliothèques, mais aussi des questions de réseau et notamment de Fab Lab mobile qui sont revenus à plusieurs reprises. Donc, très enrichissant. Merci à tous et à toutes.
Super. Est-ce que vous avez des questions pour l'atelier 1? Ça m'arrange. On va passer à l'atelier 3, du coup, sur les questions de santé. Et le titre exact était quels sont les enjeux d'une offre en santé en bibliothèque, donc qui a été portée avec la Cité de la Santé, chez nous à la Bibliothèque de la Cité des Sciences et de l'Industrie, et la Bibliothèque du Bachu, qui n'est pas le vrai nom, il me semble.
La Bibliothèque du 8e arrondissement de Lyon.
Dites le Bachu. Donc bonjour à toutes et à tous. Bon, déjà, on est ravis d'avoir pu participer à cette journée. Ravis aussi d'avoir travaillé déjà dans cette préparation avec la Bibliothèque du Bachu, qui peut-être va se présenter un tout petit peu, qui a une offre en santé en tout cas. Je ne vais pas vous décrire ici ce qu'est la Cité de la Santé, on n'en a pas le temps. Mais en tout cas, la réflexion, c'était de réfléchir ensemble aux enjeux qu'il pouvait y avoir autour d'une offre en santé en bibliothèque, et notamment la question de la fiabilité des sources, que ce soit des ressources documentaires, mais aussi éventuellement des autres ressources qu'on proposait dans certaines bibliothèques, notamment en faisant appel à des partenaires avec des animations, des événements, des permanences, comme on le fait notamment à la Cité de la Santé, qui est une cité de service. Voilà, donc ça, il est évident que le sujet de la santé est particulièrement aujourd'hui sujet parfois à des polémiques. Donc on a une responsabilité particulière, en tout cas peut-être accrue, dans un musée, dans un établissement public, à sélectionner justement les ressources qu'on met à disposition de nos visiteurs. Néanmoins, il n'y a pas de réponse forcément toute faite et immédiate. Peut-être on a beaucoup discuté de ça, et avec les participants, on a essayé de réfléchir à qui parler, d'où on se plaçait, et des différences qu'on avait selon si on travaillait dans une bibliothèque municipale, universitaire ou dans un établissement comme le nôtre. Néanmoins, il y a quand même des points communs entre nous et des réflexions sur voilà, les ouvrages qu'on va sélectionner ou pas, et notamment, mais pas que, sur évidemment tout ce qui a trait aux médecines dites non conventionnelles, la place qu'on leur accorde ou pas dans nos fonds. Peut-être que dans les débats qu'on n'a pas pu poursuivre, même si c'était, ça s'annonçait très riche, ce qui est ressorti, c'est que déjà on avait besoin de réflexivité et de réfléchir à des critères et de réfléchir à plusieurs sur ces sujets-là, de s'entourer d'experts sur lesquels on peut s'appuyer. Ça vaut pour des partenaires institutionnels, des chercheurs, des associations avec lesquelles on travaille déjà ou des institutionnels. Peut-être aussi l'articulation dans nos offres, que ce soit nos choix documentaires, mais aussi justement les animations ou les conférences qu'on peut proposer. Ça permet aussi d'asseoir la qualité de nos offres. Voilà, c'est les questions que, me semble-t-il, qui ont été partagées. Peut-être tu veux compléter, Michel ?
Ben non, parce que tu as tout dit, alors ça c'est bien, c'est parfait. Voilà, la seule chose, c'est que comme on était deux structures différentes, on avait des moyens différents. Nous, on est une petite structure, parce que là, il y a 10 personnes dans le personnel, donc pour la Cité des Sciences. Nous, on n'est que deux, donc on offre un autre regard, et peut-être que pour ceux qui nous ont écoutés, c'était peut-être aussi utile d'avoir ce type de structure qui présente ses services, ses moyens et sa démarche. Voilà. Mais en tous les cas, effectivement, comme elle l'a dit, ce qui a beaucoup structuré les débats, c'est cette question de la rigueur qu'on doit apporter sur nos animations, sur nos acquisitions, et que finalement, il n'y a pas de vérité absolue dans le domaine, et que c'est toujours l'enjeu de notre profession que de se poser ces questions-là en permanence. Voilà.
Et d'ailleurs, on souhaite rester en contact. Donc, je ne sais pas. Enfin, nous, c'est facile d'échanger nos mails, mais vu que à la Cité de la Santé, on compte mettre en place justement un groupe de travail sur le sujet, eh bien, c'est l'occasion de prolonger les débats. Donc, si ça intéresse d'autres personnes dans la salle, n'hésitez pas à nous rejoindre. Merci.
Super. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions dans la salle, peut-être ? Pas particulièrement. Alors sur l'agencement des ateliers, c'était exactement l'objectif, hein, c'était de mettre des structures différentes pour vous montrer cette diversité des approches, parce qu'on a bien conscience que dans le public aujourd'hui, on n'a pas tous les mêmes contraintes, les mêmes moyens, les mêmes les mêmes conditions, les mêmes contextes de travail. Donc c'était très important pour nous de pouvoir vous proposer sur chacun des ateliers des approches différentes. C'est le cas sur l'atelier suivant, l'atelier 4, outils, ressources, astuces, tout ce que vous avez toujours voulu savoir pour gérer un fonds scientifique en bibliothèque, avec Régine Préchel, donc, qui est notre chargée de politique documentaire à la Bibliothèque de la Cité des Sciences et de l'Industrie, et Nathalie Juste, qui travaille aux bibliothèques de la mairie de Paris, de la mairie de Paris, sur la commission Sciences, c'est ça ? Super.
Merci. Donc, après avoir présenté un peu les deux structures, donc la Bibliothèque de la Sciences et de l'Industrie à la Villette, et puis comment marchait le réseau parisien, on a proposé un petit exercice. Donc, l'idée, c'était d'analyser une dizaine de livres, un peu comme si on allait dans une librairie, avec trois scénarios possibles. On a une petite bibliothèque, donc on a un petit budget, et donc il faut acheter cinq livres, donc lesquels on choisit. Et après, il y a une grande bibliothèque, et ensuite, on est à la Bibliothèque des sciences et de l'industrie. Donc, ça a permis d'avoir beaucoup d'échanges. Donc, pour ces échanges, je passe la parole à Régine.
Donc, c'était très intéressant, les échanges. On peut dire que les bibliothécaires savent très bien sélectionner les livres, connaissent les éditeurs et se posent les bonnes questions. Donc, on a notamment débattu sur des livres controversés comme Les Apprentis Sorciers ou sur Climat, la part d'incertitude, donc qui était quand même dans les meilleures ventes. Les gens veulent les lire. Est-ce que ça place dans une petite bibliothèque, une grosse structure ou à la Cité des Sciences, si c'est pas approuvé scientifiquement le contenu? Donc il y a toujours ce débat entre une liberté d'expression, une pluralité et de pas diffuser des fausses informations. Donc c'est difficile. Est-ce que ce genre de livre pourrait avoir leur place dans un fonds à part qui s'appellerait Débat de société? Nous, on a créé un fonds Esprit critique, c'est typiquement la matière pour travailler sur l'esprit critique. Donc voilà, c'est des questions qu'on s'est posées. On n'a pas toujours toutes les questions, mais c'est voilà, nous aussi, on va toutes continuer les débats. Et c'était très intéressant de travailler avec Nathalie, parce que je connaissais pas du tout ce collectif de sciences qui fait des suggestions aux bibliothèques de la ville de Paris. Et là aussi, on va continuer notre travail.
Notre travail ensemble, je pense.
Oui.
Tout à fait. Oui, 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 sur la santé, il y a beaucoup de choses.
On a évoqué aussi le bien-être, la santé, ouais, voilà. Oui.
Super, merci. Est-ce que vous avez des questions pour Nathalie et Régine ? Pas particulièrement, ok. Alors on continue. L'atelier 5, c'était l'intelligence artificielle en bibliothèque, au-delà de l'expérimentation vers une appropriation et un questionnement des outils dans une démarche EMI. Avec Philippe Denis et Sophie Campo qui nous viennent tout droit des médiathèques de Lorient. Et donc un participant à l'atelier qui est Dimitri, qui va vous faire une restitution. Merci Dimitri.
Bonjour tout le monde. C'était un atelier qui portait sur l'intelligence artificielle dans le cadre des actions EMI en bibliothèque, et notamment l'utilisation d'IA générative textuelle et d'images. Donc on a vu les deux, on était répartis en groupes de deux. On avait pour mission de créer, comme objectif, de créer quelque chose autour des sciences. Donc avec ma partenaire Caroline qui est un peu plus haut, on a créé quelque chose autour, on a demandé à Mistral, qui est une IA générative de texte, de nous générer un débat autour des OGM avec des chercheurs. Donc il nous a fait une liste très détaillée des différents points, ce qui était très intéressant. Bien sûr, c'est à retravailler. Et ensuite, on a détaillé les points un par un, et on a essayé de voir s'ils respectaient les lois RGPD. Et oui, on lui a demandé s'il pouvait nous donner des coordonnées précises de chercheurs. Et en fait, il nous a tout de suite dit qu'il n'était pas en capacité. Et ensuite, donc ce débat, on a créé une affiche à partir d'une IA donc, qui génère des images. C'était plutôt intéressant, même si on voit la touche de l'ordinateur et du code utilisé, quoi. Et voilà. globalement. Après, je ne sais pas si...
Oui, donc ça, c'était mon atelier. Donc, ouais. Le but, c'était que tout le monde participe et puisse faire des choses. Donc, moi et Sophie, on travaille à la médiathèque de Lorient et depuis janvier, dans un cadre d'éducation média à l'information, suite d'ateliers sur les IA génératives, en se disant, bon, il y a beaucoup de fantasmes, il y a beaucoup, on parle beaucoup de ces choses-là, mais avant de les critiquer ou avant d'avoir une opinion, ce serait bien de les utiliser. Et après, juste après, on peut émettre un avis. Et souvent, nos publics sont très, très, ont des remarques très, très pertinentes et créent des choses. Donc, c'est plutôt un atelier bah, pour nous sur le sujet de la matinée, de la journée. Mais nous, on avait fait des parcours créatifs de création de textes, d'images et de sons. Donc, c'est terminé avec des créations de chansons, etc. Donc, parcours créatif avec des IA génératives, tout en gardant un esprit critique de ce qu'on fait et quels sont les droits d'auteur, etc., etc., etc. Ça, ce serait une journée entière sur ces questions-là. Mais bah, voilà, si vous avez besoin de renseignements, voilà. Donc, moi, je suis prêt à vous aiguiller. Et merci à tous les participants et merci à Swazik que je ne vois plus de nous avoir invités. Voilà. Nike Café. Pour des questions de facilité, qu'avec un free mail et des mots de passe, ça passe. Alors que d'autres, il faut vraiment des codes Gmail ou Microsoft. Et je pouvais pas en avoir 8 d'un coup, comme ça. C'est juste un problème technique.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les questions d'IA en bibliothèque? J'imagine que la BPI va encore travailler sur ces questions d'IA qui continuent à arriver. Nous, à la Cité des Sciences, on propose le Printemps de l'Esprit Critique qui a lieu en ce moment sur les questions d'intelligence artificielle. Et vous pouvez aussi retrouver le Baromètre de l'Esprit Critique qui est sorti et qui propose une cartographie un peu des représentations de nos concitoyens sur ces notions d'intelligence artificielle. On va passer à l'atelier 6, Sciences citoyennes. Oui, ah. Si nous l'autorise, oui, je pense qu'on pourra.
Oui,
faire
bien
un
sûr. Oui, commun. Je vous propose. Oui, bien sûr. Ouais. Bah, tout le monde a mon mail dans l'atelier. Et puis, s'il y a vraiment des questionnements, des choses, comment animer ce genre d'atelier pour des publics, hein, public adulte, il n'y a aucun problème.
Dans les comptes rendus ou si peut-être un support, je sais pas.
J'ai un support. Oui, il faut que je le partage. Voilà.
Il y a déjà une fiche pratique.
Oui, je fais une fiche pratique. Ouais. Il y a la fiche pratique qui est prête déjà. Ouais. Oui. C'est vraiment le sujet, vraiment tendance, mais qui pose question.
Il y a une journée aussi le 13 juin pour Saint-Brieuc. Hein, voilà, Saint-Brieuc.
C'est joli.
Super. Il faut, c'est très bien.
Ok, d'autres questions? On continue. Alors, l'atelier 6, c'était les sciences citoyennes et participatives. Quelle place pour les bibliothèques publiques? Avec Laure Turcati, ingénieur de recherche en sciences et recherche participative à l'Université de Sorbonne, et Alexandra Villarroel-Parada, j'espère que je n'écorche pas les noms et prénoms, coordinatrice Participe Arc et Vigimuséum, ainsi que Thierry Brassac, responsable culture scientifique, projet innovant et formation à l'Université de Montpellier. Je vous laisse la parole.
Alors du coup, effectivement, notre atelier, le but, c'était de représenter un peu ce que recouvrent en fait les sciences et recherches participatives. Et surtout, on a fait travailler les participants. Notre objectif, c'était aussi vraiment de voir quel lien on pouvait tisser en fait entre ces programmes du coup qu'on développe tous les trois à différentes échelles et puis ce réseau des médiathèques et des bibliothèques, puisqu'on perçoit que, on perçoit qu'il y a des liens intéressants à faire, mais qui pour l'instant ne sont pas forcément effectifs. Donc du coup, dans l'atelier, pour vous le résumer un petit peu, on a quand même repris un peu quelques bases sur qu'est-ce qu'on met derrière sciences et recherches participatives et surtout quelle diversité ça recouvre en termes de thématiques abordées, en termes de partenariats qu'on peut créer, en termes de public qu'on peut mobiliser sur ces projets. On a eu un petit temps de mise en pratique. Je laisserai Thierry peut-être dire 2-3 mots là-dessus. Voilà, pour tester concrètement la participation à un programme. Et puis ensuite, on a fait 3 petits groupes autour de 3 projets différents. Pouvoir un peu dans le concret justement quel lien on pouvait tisser et avoir les retours des participants que l'on remercie d'ailleurs, retours qui ont été très riches sur des pistes un peu de collaboration et de mise en œuvre opérationnelle dans les bibliothèques.
Bon, moi j'ai fait un peu la partie TP en fait, effectivement. Donc les participants, ils sont allés à la chasse aux espèces dans les livres de littérature de jeunesse, et on a un site participatif qui permet de faire ça. Et donc pourquoi on fait ça ? On fait ça à terme pour se poser la question, c'est quoi la différence entre les espèces de la nature et les espèces de la littérature ? Et pour faire ça, on le fait à la manière du muséum, c'est-à-dire on fait une collection participative par les enfants qui ont été formés aux sciences naturalistes et qui vont aller chasser dans les bouquins les espèces qui leur plaisent le plus. Et on leur pose quelques questions sur eux, ce qu'ils sont en train de faire, et qui ils sont, où ils vivent, quel est leur rapport à la nature, et ça permettra à des chercheuses, en l'occurrence, d'analyser un petit peu tous ces résultats. Mais on est dans une phase où il faut qu'on amasse beaucoup. C'est un peu comme les voyages naturalistes à l'époque où il fallait ramasser plein de nouvelles espèces. Donc là, on en est à cette phase-là. Et les outils sont en train d'être développés. On a un site qui fonctionne, qui s'appelle Litternature. Et on a aussi montré qu'on pouvait faire exactement la même chose, c'est-à-dire des sciences naturalistes avec la méthode naturaliste, juste avec des ours en peluche. Donc ça, c'est un autre site qui s'appelle c'est la nounoursologie, nounours.umontpellier.fr. Et vous pouvez, à partir de collections de nounours ou de nounours individuels, faire de la science et vous amuser à faire passer le message, en fait.
Ouais, juste pour vous dire 2 mots des 2 autres projets sur lesquels on a travaillé. Moi, j'ai eu plein d'idées pour un observatoire participatif de l'environnement urbain que je coordonne, qui s'appelle Participé. Et avec mon point d'interrogation, c'était que pour participer, il faut sortir de la bibliothèque. Donc, comment on gère ça ? Et j'aurais du mal à vous résumer très vite tout ce qu'on a discuté, mais aussi les freins qu'on a identifiés. En tout cas, c'était très riche avec plein de pistes de potentielle collaboration. Donc, voilà.
Et le dernier projet qu'on a abordé plus en détail, il s'appelle Histoire de nature. Et donc, c'est un projet porté par le Muséum de Paris et le Muséum de Berlin, dont l'objectif est de créer une collection numérique participative des changements environnementaux, c'est-à-dire de mobiliser les citoyens pour contribuer avec un objet, une photo associée à un témoignage personnel, à essayer de construire une mémoire collective de ces changements environnementaux qu'on observe les uns et les autres. Voilà. Et peut-être juste, si je peux me permettre, en termes de coordonnées, mais aussi, je ne sais pas si les supports... en fait, on a donné des ressources et quelques liens, notamment vers des plateformes qui recensent plein de projets de sciences et de recherche participative. Voilà, peut-être voir le moyen de pouvoir diffuser ça. Si ça vous intéresse, allez piocher dedans, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà.
On met tout sur le site.
Super.
BPI Pro, vous... oui, une question ?
Oui, alors concrètement sur BirdLab, donc c'est un des programmes qui est coordonné par le muséum et notamment par l'équipe qui s'appelle Viginature, voilà, au sein du muséum. Donc je peux vous donner des coordonnées, en tout cas oui, pour avoir des contacts. D'où l'intérêt de diffuser aussi ces plateformes où vous pouvez notamment retrouver ce projet.
Super, merci beaucoup. Donc oui, BPI Pro. Vous retrouverez l'ensemble des documents liés à la journée et bien évidemment tous les outils qui peuvent vous être utiles, on vous les partagera avec grand plaisir, c'est l'objectif aussi de cette journée. L'atelier 7, c'était l'atelier Info Vrai, focus sur une médiation scientifique de la Bibliothèque de la Cité des Sciences et de l'Industrie. C'est moi qui le portais, on n'a pas du tout fait ça, parce que j'ai bien senti que les gens qui s'étaient inscrits, ils étaient là parce qu'il n'y avait plus de place sur les autres ateliers. D'un autre côté, c'était un peu le but de cet atelier, c'était de faire un petit peu de moins de monde sur les autres ateliers qui étaient sûrement plus intéressants, mais on a quand même eu des discussions très chouettes. L'idée, c'était de se poser la question des retours d'expérience de chacun et de voir un petit peu quels étaient les freins et les opportunités quand on parlait de médiation scientifique en bibliothèque, de se questionner sur ce qu'elle était, cette médiation scientifique en bibliothèque. Est-ce qu'elle devait reproduire ce que font les centres de culture scientifique ou est-ce qu'il n'y avait pas des particularités propres aux bibliothèques qui étaient des opportunités? Et c'est Renaud qui va vous faire une petite synthèse.
Une synthèse assez courte parce que tu as dit pas mal de choses déjà, Laurent. Merci aux participants et aux participantes de cet atelier que j'ai trouvé vraiment participatif pour le coup. Tout le monde a pu s'exprimer, a pu donner son point de vue, son expérience aussi autour de la médiation. Ce qui fait que moi j'ai noté quelques mots-clés, hein, n'hésitez pas à compléter celles et ceux qui étaient avec moi, parce que je pense que je vais oublier des choses. D'autant qu'il y a pas mal de choses qui ont été déjà dites aussi dans les autres ateliers, notamment autour de la participation. Donc, chose que j'ai relevée et qui me semble intéressant à votre niveau, puisque vous avez des publics qui reviennent plutôt régulièrement dans vos lieux, c'est le fait de travailler sur des choses qui traient au quotidien et qui traient aussi aux intérêts, aux appétences des publics. Ça paraît essentiel, voilà, de s'appuyer sur ces publics quand on fait de la médiation. Enfin, on avait noté aussi la formation des bibliothécaires, médiathécaires. Vous n'avez pas forcément de formation aux sciences. Et c'est vrai que pour certains, ça peut rebuter. Mais pour ça, il faut vous dire que ben, vous n'êtes pas tout seul. Vous êtes dans un collectif au sein de votre structure. Mais votre structure est aussi beaucoup plus large. On a parlé, par exemple, de services au sein des collectivités, les espaces verts, les services de l'eau. On a parlé aussi des écoles, des collèges. Donc tout ça, c'est des personnes que vous pouvez mobiliser et qui peuvent vous apporter des compétences que vous n'avez pas. Donc oui, vous n'avez peut-être pas de formation aux sciences, mais vous pouvez vous entourer et faire du lien avec des personnes qui ont ces compétences-là et monter des projets avec ces personnes. Ensuite, quelque chose sur lequel on a beaucoup insisté et qui est important quand on fait de la médiation, c'est qu'on s'appuie sur la méthode scientifique. Donc si jamais la méthode, hein, c'est on pose des hypothèses qui sont réfutables, on expérimente, on fait de la collecte de données et après on les discute. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important à garder en mémoire quand on fait de la médiation. C'est quelque chose que l'on peut faire sur quasiment tous les sujets. Et donc j'ai parlé de la force du collectif, du travail au quotidien. Et la dernière chose, oui, qu'on a relevé, c'est essayer de trouver sa propre position aussi. La médiation, c'est vaste. Il y a des choses sur lesquelles on est à l'aise, d'autres sur lesquelles on n'est pas à l'aise. Mais il faut réussir à se positionner et trouver là où on est le plus à l'aise pour faire notre action. Peut-être qu'une action, on va réussir à la faire qu'avec 5-6 personnes, parce qu'on n'est pas apte à la faire avec 15 personnes. Mais une autre action, là, on va se sentir capable de la faire avec une trentaine de personnes, par exemple. Donc voilà, il faut réussir aussi à se positionner en tant qu'individu sur ce curseur-là de où est-ce qu'on est capable d'aller et qu'est-ce qu'on est capable de faire.
Sur cette notion de positionnement, il y avait aussi une notion très importante, c'était de se dire, généralement, les gens, quand ils viennent dans une bibliothèque et qu'ils voient une personne face publique, ils veulent que vous soyez un sachant, vous ne pouvez pas tout savoir, et donc du coup, l'intérêt de la culture scientifique, c'est de pouvoir les emmener vers des questions. On en a parlé avec Jérôme Santolini ce matin, avec Mathéo. C'est moins confortable pour tout le monde, mais ça peut permettre de tous aller bien plus loin si on garde à l'esprit qu'on peut faire ce chemin scientifique tous ensemble, et que si vous n'avez pas la connaissance, vous pouvez aller la chercher avec vos publics. Il y a tout un écosystème autour de vous pour aller trouver les connaissances, pour pouvoir continuer à amener vos publics vers un questionnement. Et on a aussi mis en avant la notion de programmation qui était importante. Si vous faites des actions isolées les unes aux autres, ça n'a pas grand intérêt. Il faut pouvoir emmener le public sur un arc réactif de la sensibilisation l'approfondissement pour aller peut-être vers l'expertise, mais que clairement, peut-être que le but d'une bibliothèque, c'est pas d'emmener vers une expertise scientifique. La sensibilisation et l'approfondissement sont déjà des notions assez importantes à faire avec vos publics, et que d'autres structures peuvent aller sur des approfondissements plus proches de l'expertise. Voilà, grosso modo, ce qu'on s'est dit. On continue. Vous avez des questions, peut-être? C'était super intéressant. Vous auriez dû être dans notre atelier. L'atelier 8, donc c'était les Escape Games scientifiques et autres médiations scientifiques en bibliothèque, avec Marie-Camille Linthe, du pôle médiation de l'association Délire d'encre.
Alors, j'ai pas pensé à demander à un participant, mais si quelqu'un veut venir, je vous en prie. Alors, moi, je fais partie de l'association Délire d'encre, qui est une association de médiation scientifique près de Toulouse. Donc, l'idée de cet atelier, c'était de présenter ce que c'est la médiation scientifique, de faire une petite initiation à comment est-ce qu'on peut faire de la médiation scientifique en bibliothèque, parce que c'est vraiment la spécialité de l'association dans laquelle je travaille, puisque notre but, c'est de faire des sciences avec des livres ou des sciences dans des lieux de lecture. Donc c'est vraiment notre spécialité et c'est ce que j'ai voulu montrer un petit peu. D'autant plus qu'on a un projet à l'association, ça s'appelle le projet Sciences en médiathèque. Par le biais de ce projet et avec Occitanie Livre et Lecture, on organise des journées professionnelles à laquelle vous pouvez assister en visioconférence. On crée des ateliers clés en main qui sont disponibles sur notre site internet gratuitement, ainsi que des escape games. Donc j'ai un peu présenté tous ces outils pédagogiques pour montrer qu'ils étaient accessibles, qu'ils étaient vraiment guidés pas à pas et qu'on propose aussi des formations en ligne, donc toujours gratuitement si ça vous intéresse. Pour les mettre en place, même si on est à Toulouse, tout est accessible à distance grâce à la visio. Donc voilà, l'idée de cet atelier, c'était vraiment de faire des choses assez concrètes. Les participants ont pu tester l'invention d'un atelier grâce à des supports de vulgarisation. On a beaucoup discuté de ce qu'ils pouvaient mettre en place. J'espère que l'atelier, ça a pu montrer que c'était possible de faire des choses même sans avoir eu un cursus scientifique par le passé, même en ayant peu de moyens, c'était vraiment l'idée de cet atelier. Voilà.
Est-ce que vous avez des questions ?
Eh bien, merci beaucoup. Il reste un atelier, mais je vois que Valentin, il n'est pas là, il n'est pas de retour. C'était l'atelier 2, comment intégrer les sciences à l'éducation, aux médias et à l'information. Et Valentin me dit go, 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 donc c'est qu'il doit être quelque part par là. Est-ce qui était dans l'atelier 2 et souhaite faire une restitution à brûle pour point, comme ça? Il va pas tarder à arriver. Alors, soit on l'attend, soit on se dit que... On peut faire un tour de questions-réponses très rapide sur l'ensemble de la journée. Est-ce que vous avez des interrogations, des réflexions, des avis à nous donner aussi? C'est toujours intéressant de nous dire un petit peu ce que vous en avez pensé pour qu'on puisse continuer à s'améliorer et répondre toujours mieux à vos attentes. Pas particulièrement ?
Oui, du coup, c'est vrai que c'est assez frustrant de ne pas avoir assisté aux autres ateliers et même de ne pas avoir prolongé les débats au sein même d'une autre, comme je le disais tout à l'heure. Donc nous, on a trouvé une solution en proposant de se revoir. Mais est-ce qu'on ne peut pas envisager une suite à ces échanges je ne sais pas, d'une manière ou d'une autre. Au-delà d'un partage d'infos, je ne sais pas exactement ce qui figurera sur le site de la BPI. Je ne sais pas si toutes les présentations PowerPoint y figureront, ou quelques outils. Mais...
Tout ce qu'on recevra, on le mettra dessus. Mais c'est vrai que quand on s'est rencontrés entre les deux établissements, on s'est dit que ça pouvait être le point de départ d'autres choses, d'autres actions, d'autres manières de travailler. Et on comptait un peu sur cette journée pour le construire. Donc tout est entre nos mains. C'est très ouvert. Et évidemment, ça serait une bonne chose. Enfin, moi, je m'occupe de coopération. Donc si vous me proposez de coopérer, je dis oui.
Parce qu'on voit quand même qu'on est confronté à pas mal d'enjeux communs et voilà, ça me paraît très important de pouvoir coopérer et s'appuyer sur les ressources et les réflexions des uns et des autres.
Oui, on va réfléchir à voir comment on peut aussi vous proposer quelque chose qui n'est pas trop contraignant, qui permette de continuer à échanger les uns avec les autres. Alors je sais que dans chaque atelier, vous allez pouvoir avoir les contacts des personnes qui ont été dans les ateliers. L'objectif, c'est bien celui-ci. Nous, on a passé le temps à se le redire dans notre atelier, c'est que sur ces questions de sciences en bibliothèque, la force du collectif est toujours importante. De toute façon, pas que sur questions de sciences en bibliothèque, sur toutes les questions, le collectif est toujours important. Donc là, on est un collectif tous ensemble. Si vous voulez que ça reste un collectif et qu'on puisse continuer à échanger, il suffit d'un peu de bonne volonté, d'un groupe Teams ou quelque chose comme ça, et on pourra réfléchir avec les équipes de la BPI à voir ce qu'on peut vous proposer. Et après, libre à vous aussi, entre vous, d'interéchanger. Hein, vous n'avez plus besoin de nous maintenant que vous êtes tous rencontrés. Valentin est arrivé, en retard mais présent, sur l'atelier 2, donc comment intégrer les sciences dans des démarches d'éducation aux médias et à l'information.
Voilà. Et du coup, j'ai 5 minutes pour vous faire un résumé de ce qu'on s'est dit 3. En 1h30. 3, ok, cool. Comme tu sais, je suis quelqu'un de concis. Grosso modo, ce qu'on s'est dit sur cet atelier, c'est qu'on pouvait comprendre qu'il y avait une certaine peur, réticence, blocage parfois à parler de sciences en bibliothèque, sachant que je pense que dans la salle, on est beaucoup à avoir une formation plutôt littéraire, histoire de l'art, etc., métier du livre, et pas forcément un bagage en biochimie ou autre thématique. Mais ce qu'on a aussi compris, ou en tout cas ce que j'espère que les personnes qui ont assisté à l'atelier ont compris, c'est qu'en fait, ce blocage n'est pas forcément justifié par le simple fait qu'on peut parler de science sans forcément être un expert. Par contre, il faut s'entourer de personnes compétentes sur la question. Et c'est là où est le plus important. Vous avez un savoir-faire dans les bibliothèques. Le savoir-faire que vous avez, c'est faire le lien avec vos publics, identifier vos publics, créer une relation de confiance avec eux. Et c'est ça votre force au quotidien. Vous devez être capable d'organiser des tables rondes, des conférences, des journées d'études, etc. Faire venir des journalistes, faire venir des auteurs pour parler de leurs livres. Vous savez déjà toutes et tous le faire. Et en fait, c'est en vous appuyant sur ces compétences-là que vous allez introduire de la science. Au lieu de faire venir un auteur pour parler de son dernier roman SF, même si la SF c'est très bien, on va en fait le faire venir pour... parler d'un article d'un chercheur qui a parlé, on va faire venir un chercheur, du CNRS pour qu'il parle en fait de ses dernières recherches. À côté de ça, on peut le lier et faire venir aussi un journaliste scientifique et leur demander de parler d'un sujet d'actualité. En fait, c'est vraiment une action que vous êtes capable de mener, que vous êtes capable de construire, comme d'autres actions qu'il y a déjà au quotidien dans la bibliothèque. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a des projets un peu plus complexes sur comment vraiment investir les équipes, que ce soit des animateurs, des bibliothécaires, des médiateurs, sur les questions scientifiques. Et là, effectivement, ça demande un temps d'approche un peu plus long, de formation, d'acculturation. Mais ce qu'on a essayé de voir ensemble dans cet atelier, c'est qu'on peut partir en fait de l'EMI et ensuite rajouter de la culture scientifique. C'est-à-dire que de l'éducation aux médias, on en fait quasiment déjà toutes et tous dans nos bibliothèques. Et ça ne sert à rien de repartir complètement de zéro. Vous pouvez partir de ce que vous construisez déjà et réussir à le thématiser par une branche sur la question scientifique. Je prends un exemple, l'exemple de l'atelier que Laurent a présenté, Info Vrai.
Je ne l'ai pas présenté du coup.
Ah, ok. Alors, l'atelier que Laurent n'a pas présenté, Info Vrai, c'est un atelier de débat. Et cet atelier de débat, en fait, c'est une sorte de débat mouvant autour de sujets d'actualité, où on demande aux gens de se positionner pour ou contre un sujet. Ce qu'on fait à la Bibliothèque de la Cité des Sciences et de l'Industrie, c'est qu'on prend un sujet de culture scientifique. On va vous demander, alors très factuellement, est-ce que vous êtes pour ou contre le nucléaire, même si, effectivement, le choix, à la fin, il est un peu plus au milieu, il est plus gris que noir ou blanc. Et à côté de ça, nous, on met du contenu. On fait une fiche pédagogique qui explique comment le nucléaire fonctionne. On donne des chiffres de l'ADEME. Pour donner des informations sur le sujet du nucléaire. Et donc, ça commence à faire un petit bagage culturel. Et à la fin, un médiateur, une médiatrice, un animateur fait une reprise scientifique et donne un contexte vraiment précis. En fait, il faut y aller progressivement. Il ne faut pas avoir peur de faire de la culture scientifique, même quand on n'est pas formé. C'est vraiment une histoire, alors comme moi j'aime bien le dire, de fusée. Vous avez un premier étage de fusée où il faut s'entourer de personnes compétentes, sachantes, entre guillemets, sur la thématique, leur faire confiance, construire avec elles. Dans un second temps, prendre des initiatives, et là, je monte sur mes jambes comme ça en fonction des étages de la fusée. Dans un second temps, construire des ateliers, et dans un troisième temps, on avait parlé qu'on pouvait se lancer sur de l'événementiel, sur des actions, participer à la semaine de la presse et des médias à l'école, participer au printemps de l'esprit critique 2025, si vous le souhaitez. En fait, vraiment grandir et y aller progressivement, sans crainte, mais avec un plan, un fil de route qui a été pensé et réfléchi à l'avance. Voilà, un peu plus de 3 minutes, mais moins de 5.
Super, merci Valentin. Est-ce que vous avez des questions pour Valentin ?
Alors, ce n'est pas une question, juste une petite remarque. Tu sais qu'il y a des auteurs de science-fiction qui sont scientifiques. On l'a prouvé lors de notre dernière rencontre auteur. Merci, Valentin.
J'ai aucun doute sur la qualité des auteurs scientifiques, enfin de SF.
Oui, c'est juste pour tout au long de la journée, on a beaucoup entendu cette idée que on est de formation littéraire majoritairement, etc. Et moi, j'avoue que ça me surprend beaucoup, même que la thématique de la journée soit sur les sciences ou entendu sciences dures, parce que les sciences humaines, c'est aussi des sciences. Il y a aussi une méthodologie scientifique. Et même si on est de formation littéraire la plupart, moi c'est mon cas par exemple, c'est les langues, l'anglais. Je me suis arrêté au master recherche et j'ai pas la prétention de penser que je suis capable de tenir la dragée un chercheur en anglais qui aura travaillé sur une thématique en particulier. Et même si c'était le cas, si j'avais une thèse, des articles, etc., ça serait sur un sujet en particulier. Et à moins de décliner ce sujet encore et encore, dans tous les cas, il y a forcément un moment donné où on est effectivement hors de notre zone de confort. Et donc je vois pas à quel moment c'est un problème. Une fois qu'on a pris conscience de cette limite, et qu'au contraire, bah justement, l'idée, c'est de s'entourer donc d'experts, de spécialistes, donc d'universitaires par exemple, que ce soit en sciences humaines, en sciences dures ou dans n'importe quelle thématique, et de faire dialoguer ces personnes. Et effectivement, nous, notre rôle, c'est plus de servir d'interface, de facilitateur, de passeur, on peut appeler ça comme on veut. Mais j'ai un peu du mal avec cette frontière que je trouve très artificielle, en fait.
Ok. Alors. En soi, je suis d'accord avec vous. Alors, je vais répondre à une partie de votre question qui était « tenir la dragée haute », entre guillemets. En fait, ce n'est pas forcément ce qu'on demande aux médiateurs ou dans le cadre de conférences, etc. Par contre, on demande de faire du lien, d'identifier des chercheurs, des chercheuses, des journalistes qui parlent du sujet et ensuite de créer un ensemble cohérent pour nos publics. Et donc, du coup, l'idée, ce n'est pas forcément de tenir le contre-discours, etc., mais davantage de sélectionner correctement les intervenants pour nos rencontres. Ensuite, sur cette question de la formation et de l'habitude, de l'acculturation en fait, à parler d'un sujet, statistiquement, dans les études, on est en fait sur des profils plutôt littéraires. L'un des freins évoqués le plus souvent, justement, c'est cette formation qui a été plutôt tournée vers le métier du livre, pour vraiment simplifier, plutôt que même les SHS, entre guillemets. Je pense que proportionnellement, on est plus sur le métier du livre que SHS en fait, derrière, et que encore moins sciences dures. Mais après, comme je le disais dans mon groupe, moi, à la base, j'ai une licence d'histoire et un master en histoire de l'art. Donc, je suis plutôt SHS aussi.
Moi, je suis d'accord avec vous, monsieur. Il faut dépasser il faut avoir ce déclic. Et tout l'intérêt de cette journée, c'était de se dire on fait ce déclic. Et c'est vrai que quand on regarde toutes les études sur les sciences en bibliothèque, on reste bloqué sur ces questions-là. Et l'objectif des différents ateliers qu'on proposait, c'était de montrer aussi des choses qui se font et qui fonctionnent, et essayer d'être dans quelque chose de plus optimiste et plus positif en se disant, passons le cap, arrêtons de s'auto-flageller et allons-y. Et maintenant, c'est une question de motivation. Si le déclic il est passé, c'est comment on a envie de s'y mettre. Et encore une fois, j'espère qu'aujourd'hui, ça vous aura donné envie de vous y mettre.
Oui. Clairement, dans l'atelier qu'on a animé avec Régine, il n'y avait aucun problème pour sélectionner les livres en sciences. Il y avait une méthode qui était derrière. Il n'y a pas eu de choses qui étaient aberrantes, quoi, en fait. Les collègues savaient très bien choisir des livres scientifiques.
Donc, c'est un faux problème, en fait.
C'est un faux problème.
Voilà. Oui.
Juste une réaction par rapport à ça. Ce matin, Bastien, donc le directeur de l'AMSI, vous a présenté très succinctement des projets qui ont été faits en médiathèque, et notamment Sciences de nuit, qui a eu lieu dans le réseau des médiathèques de Montpellier, j'y étais. Et finalement, ce qui m'a le plus marqué, c'est un atelier en sciences humaines et sociales. Je vais juste vous poser une question. Nénuphar, vous l'écrivez avec un F ou avec PH ? Bah oui, mais en fait, dans l'histoire, c'était un chercheur qui nous reprenait des anciens dictionnaires et qui nous montrait que les deux écritures existaient, et qu'en fonction des années, ben, ça évoluait soit plutôt du côté F, soit plutôt du côté PH. Et donc, on reprenait comme ça des mots de vocabulaire, et on regardait dans le dictionnaire, donc lui était en train de compiler une base, justement, avec plusieurs dictionnaires, et voir l'orthographe des mots, pour montrer que ben, l'orthographe n'était pas figée, et qu'en fait, ben, il y avait des contraintes extérieures qui faisaient qu'on fixait plutôt une orthographe ou une autre, mais que ça évoluait dans le temps.
Merci pour ce retour d'expérience. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais laisser la parole à Éléonore pour conclure cette journée.
Ben moi, je voulais juste remercier la BSI pour le travail commun que nous avons mené pour organiser cette journée. Vous remercier, vous, et de vraiment votre participation, votre intérêt pour cette journée. Effectivement, je n'ai qu'un seul souhait, c'est qu'elle fasse des petits. On va réfléchir à ce que la manière dont on peut le faire. J'ai l'impression que des choses peuvent prendre et que même si c'est rien de forcément officiel, il y a déjà beaucoup de contacts, que ce soit du côté des sciences participatives, des centres de sciences ou d'autres, ou des collègues un peu référents sur certains sujets, la santé, les collections. Donc, l'informel est déjà là et si c'est nécessaire de formaliser, c'est intéressant de faire une deuxième journée. On va y réfléchir, on reste très ouvert à ça. Merci à tous.